السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Ta'ala qui nous a donné la possibilité de clore cette année 2008 et de commencer donc cette année 2009. Vous savez qu'à la fin d'une année, les entreprises, ils font un inventaire, ils font un bilan de ce qu'ils ont eu comme bénéfice. Également, les médias, ils font ce qu'on appelle une rétrospective des faits marquants de l'année. Et monsieur tout le monde, le citoyen lambda, à minuit précise en l'an 2008, ben, il va dire bonne année aux personnes qui sont de sa famille. Et l'année prochaine, à la même date, à la même heure, il dira la même chose. Et en 2010, et en 2020, et en 2050. Puis viendra une époque où cette personne ne sera plus de ce monde. Et elle enseignera cette pratique à ses enfants. Et ensuite, ses enfants à ses petits-enfants, etc., etc. Donc tous les ans, le renouvellement de l'année sera perçu uniquement comme une fête. Et ce sont là des vies qui viennent et qui partent sans réaliser l'objectif pour lequel Allah Ta'ala les a créés, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman, évidemment, il ne vit pas avec cette même optique. La relation du musulman avec le temps est axée sur quatre choses. On peut résumer en quatre choses. Premièrement, le musulman sait que ce dunya est limité. Après 2009, il y aura 7, 2010, 2011, et puis Allah seul le sait. Il peut y avoir jusqu'à 2050, 3000, Allah seul le sait. Mais en tout cas, on est certain qu'il y a une limite dans le temps. Et cette limite du temps, c'est quoi? C'est la fin du monde. Deuxième point, le musulman sait que d'année en année, plus les années vont s'enchaîner, le temps va passer de plus en plus vite. Parce qu'on dit tout le temps, la plus barakat de le temps. Effectivement, cela fait partie des petits signes du Qiyama, le fait que le temps passe de manière anormalement rapide. Troisième point, on parle des relations du mu'min avec le temps qui passe. Le musulman sait également que ce temps qui passe, cela est synonyme, pardon, du rapprochement avec Allah. C'est-à-dire que son espérance de vie est limitée. Et chaque jour qui passe, c'est un jour qui le rapproche de son qabar, c'est un jour qui le rapproche de la rencontre ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'il vivra encore 20 Muharram, 30 ou 2 Muharram, ou peut-être c'était le dernier, ou même ses derniers jours, mais le mu'min, il sait qu'un jour qui passe, c'est un jour de moins dans ce dunya. Et il sait donc également, en conséquence, que après ce temps qui lui a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala, ben, il y a 7 étapes, à peu près, 7 étapes. Il y a l'étape où l'homme rencontre l'ange de la mort qui enlève l'âme, et personne ne pourra échapper à cette étape. Si même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de son agonie, si on peut appeler ça comme ça, au moment de Sakarat, il a dit en ce sens que « inna lil mauti Sakarat ». Il a dit que c'est, hein, ce moment est difficile, il y a des difficultés au moment où l'âme quitte le corps. Si même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a expliqué aux sahaba que ce moment est difficile et douloureux, comprenons bien que personne n'échappera à cette étape. La deuxième étape, c'est l'étape de la tombe. Ensuite, il y a l'étape de la résurrection. Ensuite, il y a l'étape où Allah Azza wa Jal accorde les livrets d'action, soit dans la main droite, soit dans la main gauche, derrière le dos, qu'Allah nous en préserve. Il y a l'étape de la balance, ce qu'on appelle Al-Mizan, et l'étape du Hisab, l'étape des comptes, pour ceux qui auront des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ensuite l'étape du Sirat, l'étape où chaque être humain passera sur ce pont qui mène au paradis, pardon, et sous lequel il y a le Jahannam. Uniquement ceux à qui Allah a prédestiné le paradis pourront le traverser, et là aussi différents degrés. Et il croit, le septième et dernier point, la destinée, ce qu'Allah a destiné pour chaque personne, paradis ou enfer, en fonction des actions qu'elle aura accomplies et selon la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend que ces années qui passent, le temps qui passe, le musulman, il se dit que chaque année de cette vie qui passe, je dois faire en sorte de le passer dans, premièrement, dans l'obéissance d'Allah. Deuxième point, je dois faire en sorte que je passe le moins de temps possible, voire aucun moment de ma vie, dans une situation où je serai en désobéissance ou en désaccord avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième point, hein, ce musulman, il vit sa vie de musulman en tant que mu'min, tout en faisant la part des choses entre sa vie mondaine et sa vie spirituelle. Et le musulman intelligent, c'est qui? C'est celui qui, d'année en année, il se dit que je dois progresser. Tout comme dans mon travail, tout comme dans mon commerce, ou dans ma carrière professionnelle, ou mes études, je ne sais quoi, j'ai de l'ambition. Je veux progresser. Je veux avancer. De la même manière, dans mon din, je me dois d'avancer. Et donc, chaque jour, c'est un jour où mon iman doit augmenter. C'est un jour où mes actions également doivent augmenter. Et c'est un jour où mes relations avec Allah, subhanahu wa ta'ala, doivent s'améliorer. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran, « لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَا أَوْ يَتَأَخَّرَ » Pour ceux qui, d'entre vous, veulent avancer ou reculer. Et certains mufassirin disent que, c'est une parole merveilleuse, mais ça prendrait trop de temps pour expliquer, « فَمَلْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَقَدْ تَأَخَّرَ » Celui qui n'avance pas, ben il recule. Dans l'iman, dans le din, c'est comme ça. Si on ne progresse pas dans la foi, on ne fait pas du surplace. On est en train de perdre du terrain. On est en train de reculer. Et Ibn Rajab, rahimahullah, dit une parole que les siddiqoun, les musulmans qui avaient la piété et le ilm, hein, je le dis en arabe parce que c'est tellement magnifique, yastahyuna min Allahi an yakunu al-yawma ala mithli halihim bil ams. Ils avaient honte qu'aujourd'hui soit semblable à hier. Ils avaient honte auprès d'Allah que ce jour d'aujourd'hui, soit semblable au jour passé pour Allah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas progressé dans leur rapport avec Allah, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans le délaissement des péchés. Et lorsqu'on parle d'avancer dans le din d'Allah, lorsqu'on parle de progresser dans l'iman, de progresser dans les bonnes actions, cela doit concerner toutes les arcanes din, tout ce qui a attrait à la religion, que ce soit l'ibadat, que ce soit notre akhlaq, que ce soit notre manière de travailler, de nous comporter, le mu'amala. Parce qu'une avancée dans un domaine, tout en délaissant l'autre, cela crée des équilibres et cela n'apporte pas le iman requis par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors en trois minutes, puis cinq minutes, on va garder pour un sujet d'actualité constant. Donc, en trois minutes, comment le musulman, il perçoit l'arrivée de cette année, donc 2009? Quelles sont les résolutions que nous devons prendre à l'aube, je dis, mais il est déjà le... peut-être trois semaines du mois de janvier, quelles sont les résolutions que nous devons prendre en ce début d'année 2009? Une résolution, tout d'abord, concernant l'ibadat. Une résolution concernant l'accomplissement des bonnes actions et on citera la salat. Et pourquoi la salat? Certains se disent que tout le temps, ben Moulissablaï code de namaz. Mais nous, les la même bail. Si nous, les là, c'est que nous avons du namaz. Parler de quelque chose dont on ne pratique pas. Mais attention, n'importe quel musulman a une marge de progression possible dans la salat. Qui nous dit qu'après 50 ans de salat accompli au premier soir, notre salat est équivalent au salat d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu? Jamais de la vie. Ce qui prouve que chaque personne a une marge de progression possible et elle doit se fixer des objectifs dans l'accomplissement de cet exemple précis de sa salat. Soit de faire mes 5 salats régulièrement, ou alors si je les fais déjà, de le faire avec la jamaat. Si je le fais déjà, être toujours au premier saf. Si je le fais déjà, être régulier dans l'accomplissement des sunnah muakkada et réel muakkada. Si je le fais déjà, me fixer cet objectif qu'à partir de cette année, je fais ishraq tous les matins. Et si je le fais, à partir de cette année, je fais tahajjud avant de venir à la masjid pour fajr, etc., etc. Et si nous sommes des bouzouks exceptionnels, nous faisons déjà tout ça, ben travaillons le khushu', le khudu', la concentration et la dévotion de nos salats. Car dans des hadiths qui parlent des signes de la fin du monde, la première chose qui sera enlevée du cœur des musulmans avant le qiyamah, ce sera quoi? Al-khushu', la dévotion. Et dans certaines sources, il est dit qu'il est possible que dans une masjid jami', dans une grande mosquée où il y a 50 personnes qui font la salat, il n'y a pas une seule salat qui est acceptée par Allah, qu'Allah nous protège. Donc chacun doit travailler sa salat et se fixer des objectifs. Il y a d'autres hadiths encore sur la salat, mais on préfère zapper pour toucher les autres points. Autre arcan, autre branche de la foi, autre branche de l'islam sur lequel nous devons prendre des résolutions, c'est notre relation avec Allah. Essayons de développer ce qu'on appelle khashyatullah, taqwallah, muraqabatullah, la crainte d'Allah réelle et la pensée permanente d'Allah. C'est quoi la pensée permanente d'Allah? adversité, dans n'importe quelle situation de ma vie, je suis conscient qu'Allah me voit. Je dirais même plus qu'Allah m'observe. Et si je sais qu'Allah me voit, comment je peux désobéir à Allah? Il faut bien comprendre quelque chose. C'est pas parce que nous sommes assidus dans l'accomplissement des bonnes actions que forcément nos cœurs se remplissent de taqwa. Ça c'est complexe mais c'est important. On peut avoir la plus grande barbe du monde, on peut être au premier sort tous les jours, on peut être hafid al-Qur'an ou plus, mais si, de petits points, face à la tentation, face au désir d'accomplir des péchés, nous ne savons pas résister à Shaytan. Nous ne savons pas écraser en guillemets notre nafs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en dépit de notre cumul de sawab, de notre quantité gigantesque de bonnes actions, nous n'avons pas encore atteint la taqwa. Parce que je ne sais pas dire non à mon nafs, et je ne sais pas dire non à Shaytan face à la tentation. Il faut savoir qu'Allah Ta'ala envoie des anges qui se relaient à la prière de Asr et la prière de Fajr, et qui rapporte à Allah, et Allah sait mieux, qu'est-ce que les serviteurs ont accompli en ce jour comme action. Troisième point sur lequel nous devons essayer de prendre des résolutions pour cette année 2009, notre relation avec les gens, ce qu'on appelle al-akhlaq et al-mu'amala. On fait le niyat que cette année sera l'année de l'entente, l'année de la famille. S'il y a des membres de la famille avec lesquels nous avons rompu les relations, on fait le niyat de se rapprocher de ces gens. C'est ce qu'on appelle en arabe sunatul rahim. Et là-dessus, vous faites très attention. Car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en deux mots, qu'il n'y a pas une bonne action pour laquelle Allah rétribue aussi rapidement dans ce dunya que le fait d'entretenir les relations avec les membres de sa famille. Et en commentaire, Ibn Umar dit que la personne qui garde des bonnes relations avec les membres de sa famille, elle aura une longue vie, baraka de sa vie, elle aura baraka dans ses biens, c'est ce que nous voulons tous, et elle aura le muhabbat des membres de sa famille. Ces trois choses apportent le bonheur à l'homme. Et la suite du hadith, c'est moins amusant, il n'y a pas un péché pour lequel Allah n'envoie pas aussi rapidement sa punition sur ce dunya, en plus de ce qu'il va donner dans le akhira, que le fait de rompre les liens familiaux. Et dans un hadith, Prophète avait dit avec une assemblée que si parmi nous il y a quelqu'un qui a rompu les relations avec quelqu'un de sa famille, que cette personne se lève et qu'elle quitte l'assemblée. C'est le Prophète qui a dit, c'est pas moi ça. Et là, le Prophète a dit que la rahmat d'Allah, la bénédiction d'Allah ne descend pas sur une assemblée dans laquelle il y a des gens qui ne se parlent plus mutuellement, qui ont rompu les relations avec les membres de leur famille. Et dernier point sur lequel on va insister pour notre amélioration, notre progression, cette année, je stoppe le ribat. Comme il y en a qui disent cette année, j'arrête la cigarette, on arrête le ribat. Une histoire pour vous faire pour qu'on comprenne comment le ribat c'est quelque chose de grave. Non, on ne parlera plus des péchés parce qu'on connaît ça. Comment le ribat annule vos bonnes actions? Vous connaissez Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, tabi'in très célèbre. Quelqu'un dit, oh Hassan, il y a quelqu'un qui tout le temps il fait ton ribat dans les assemblées. Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un grand plat de dattes et il a fait parvenir à cette personne. Cette personne dit que Hassan, c'est mon ennemi, il me donne des dattes. Ça veut dire quoi ça? Hassan a dit que, on m'a dit que tu es en train de me donner tes bonnes actions parce que tu fais mon ribat. Je suis pauvre, je ne peux que te donner ce plat de dattes. Autrement, j'aurais dû te donner beaucoup plus que ça. Jazakallah, tu es en train de prendre mes bonnes actions en faisant mon ribat, je t'en récompense. Qu'on comprenne bien que le cumul des bonnes actions, c'est bien, mais si on ne pense pas à ce genre de péché destructeur comme le ribat, on est en train de s'anéantir. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre et de prendre les résolutions qu'il faut pour cette nouvelle année. En 1 minute 30, Inch'Allah. Alors, parce qu'on ne peut pas être hypocrite 15 minutes, il faut avancer un petit peu. Alors, il y a une situation sur le plan politique qui nous préoccupe tout. Hein, il faut le dire parfois, mais avec les mots qu'il faut. Cette situation qui perdure depuis un mois en Palestine, avec ses affrontements, cela met en émoi la totalité de la population musulmane. Alors comment un musulman peut-il comprendre? Quelle lecture des événements doit-on avoir? Et je dis bien une lecture des événements objective et intelligente et non pas seulement passionnée. Il y a deux manières d'aborder ou de lire ces événements. Premièrement, la réaction passive. Ah, c'est notre problème. De toute façon, ce n'est pas une démocratie, ben, ils ont ce qu'ils méritent. Ça, on ne peut pas penser comme ça. Parce que ce sont des musulmans, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les musulmans, c'est comme un corps. Si vous avez mal au pied, mal à l'œil, c'est tout le corps qui souffre. La fraternité, elle doit exister dans le cœur de chaque musulman. Ça, c'est une réaction extrême, extrêmement négative. L'autre extrême, c'est quoi? C'est une réaction excessivement passionnée. C'est quoi? Et cela se traduit par certains actes de violence, certaines reproductions des actes de violence dans des territoires où ils ne doivent pas exister. Je citerai par exemple les actions commises contre certains lieux de culte à Mulhouse, à Schlitzinger, des noms compliqués, en Seine-Saint-Denis, hein, des actions ou des actes de violence ou de barbarie faites à l'encontre à l'encontre des communautés juives. D'accord? Et cela pour la seule raison que ce sont des Yahouds qui agressent les musulmans, donc je suis en droit d'agresser les Yahouds. Est-ce que cette réaction est plausible? Est-ce que islamiquement, on peut réagir de la sorte? Alors je vous pose une question. Et plutôt, je vous cite quelque chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara est arrivé pour la Hijra, la première chose qu'il a fait, c'était quoi? C'était garantir la paix et la sécurité dans la population. C'est un objectif recherché par l'islam. Alors lorsque vous allez voir des gens qui essaient d'importer des conflits dans notre pays où le conflit n'a pas lieu d'être, ils sont en train d'agir contrairement à un des principes de la religion. Lorsque le prophète est arrivé à Madina, il a signé un acte de paix avec les trois tribus Yahoud, Qaynuqa, Nadir et Quraïza. Et notre prophète n'a jamais rompu ce pacte de paix. L'objectif, c'était quoi? Que les gens vivent en paix dans la société. Et ça, c'est la conception de la société dans l'islam. Que les gens de différentes confessions, de différentes idéologies, savent et puissent vivre en paix sans que notre vie est en danger, sans qu'il n'y ait de conflit permanent. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'était pour garantir la paix dans une ville. Maintenant, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour garantir la paix même dans une région. Lorsque les sahaba ils vont à Mecca pour faire l'umrah, le sulh de Hudaybiyah a été signé et le natija, le résultat, c'était quoi? C'était que pendant 10 ans, il n'y aura plus de guerre entre musulmans et ceux qui étaient mouchriquins. Bien qu'il y avait des contraintes, bien que cela a engendré des frustrations chez les musulmans, regardez cette leçon de politique. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré garantir une paix de 10 ans à ses citoyens plutôt que de faire l'umrah, d'avoir ce qu'ils veulent immédiatement, mais de ne pas avoir un contexte de vie agréable. Le maintien de la paix dans les villes, dans les régions, dans les pays, c'est un principe recherché par l'islam. Donc tout ce qui se fait en métropole, alhamdoulilah, la Réunion, le problème n'existe pas. Mais attention, il y a certainement des gens qui cherchent une occasion pour nous remontrer du doigt. Les musulmans, c'est eux-mêmes qui font tout ça. Il y a eu le crash à la bourse, il y a eu le problème avec la bourse, les problèmes économiques. Il y a eu l'élection de Fundi, Obama. Donc tout ça, ça a fait en sorte qu'on ne parle plus trop des musulmans comme des gens terroristes ou extrémistes. Mais faisons bien attention que ce genre de réactions violentes, qui sont disproportionnées et sans relation avec la pratique prophétique dans ce genre de conflit, attention à ce genre de réaction, hein, de faire en sorte qu'on nous pointe encore une fois du doigt. Et dernier point, on va terminer là-dessus, parce que ce sont là des points extrêmement importants. Si nous avons compris, nous aurons une autre lecture des événements. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des conflits avec la tribu Yahoud de Banu Qaynuqa en l'an 2 de l'Hégire, c'était après la campagne de Badr. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agressé la tribu de Banu Nadir et de Banu Quraïza parce qu'ils étaient de la même religion? Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré la guerre à Khaybar, qui était une tribu juive, parce que il y a eu des Yahouds qui ont fait du tort aux musulmans? Non. Et c'est ça qu'on doit bien comprendre. Ces gens-là ont fait du tort, ça concerne à ces gens, à ces personnes précises. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas exporté le conflit, il n'a pas généralisé les conflits. Donc en tant que musulman, qu'est-ce qui nous appartient? La meilleure des choses pour le musulman, c'est quoi? C'est la solidarité avec le cœur. Et les doigts. Parce que la seule chose qui peut aller à l'encontre du taqdir, c'est les doigts. Toute autre manifestation de type violente ou extrémiste ou agressive ne fera qu'empirer le conflit et ne fera que repointer du doigt cette belle religion qu'est l'islam, et que ces personnes soient dans le doigt du matin au soir. Si vraiment nous avons pitié pour ces gens-là, qu'on se réveille pour tahajjud à 2h du matin, la veille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe la nuit toute entière, il pleure dans les doigts, il demande: Oh Allah,
aide-nous, quoi, madame. C'est ça, avoir la compassion. Si vraiment nous voulons aider ces musulmans, qu'on se réveille chacun tahajjud chez soi et qu'on fasse dua depuis 3h du matin jusqu'à 5h du matin, là oui, on aura fait preuve de solidarité. On m'a tawfiq illa billah, qu'Allah t'aille tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de propager. Subhanallah, rabbika rabbika, c'était amal yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillah, rabbika rabbika.